Aujourd'hui, vous en avez l'habitude, hein, c'est un temps instable, donc des passages nuageux, des averses, des orages pour quasiment tout le monde. Il y aura des moments de répit avec du soleil. Alors là où il y en aura un petit peu plus de soleil, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une averse, mais vous aurez plus de moments ensoleillés que de moments avec des nuages, des averses. C'est en région parisienne notamment, mais aussi en Normandie, sur le centre Val-de-Loire. Et cet après-midi aussi, ce sera mieux sur les Hauts-de-France et la Bourgogne. Mais enfin, partout ailleurs, c'est perturbé avec des températures, alors plutôt en dessous des moyennes de saison, ou alors là où il y aura des éclaircies dans les moyennes de saison. Il fera 15 à Tarbes cet après-midi, 16 à Limoges, 17 à Besançon, 18 à Toulouse et Strasbourg, 19 à Lille, 21 à Paris et à Marseille et 24 à Ajaccio.
Merci Marina, vous écoutez RTL, il est 6h.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Et on accueille Vincent Derosier pour le journal. Bonjour Vincent.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
À la une ce matin, la traque pour retrouver le commando qui a permis l'évasion de Mohamed Amra hier dans l'heure.
Évasion d'une rare violence durant laquelle deux agents de l'administration pénitentiaire âgés de 34 et 52 ans ont été tués. À Caen, au pôle de rattachement des extractions judiciaires, l'émotion est immense, nous serons sur place. L'intersyndicale appelle à un blocage de toutes les prisons aujourd'hui et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et l'invité exceptionnel d'Amandine Bégaud à 7h40. À suivre également, le couvre-feu n'a pas ramené le calme en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle nuit d'émeute à Nouméa. Enfin, Cannes, top départ du 77e festival hier avec des femmes pour la cérémonie d'ouverture. Des femmes puissantes.
Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous allez surfer avec la nouvelle campagne de la sécurité routière qui a pour slogan « Conduisez comme une femme ».
Oui, il va falloir se le rentrer dans la tête. Les femmes conduisent mieux que les hommes.
À tout à l'heure après le journal.
RTL Matin.
Mohamed Amra et ses complices sont toujours en fuite ce matin après l'évasion violente et spectaculaire hier au péage d'Incarville dans l'Eure. Le détenu était en cours de transfèrement lorsqu'un commando lourdement armé est passé à l'action. Le plan Épervier a été déclenché par le ministre de l'Intérieur pendant 4 heures, la durée maximale. Mais la traque, elle, se poursuit de manière intense, Maxime Lévy.
Oui, une traque qui débute immédiatement dès 11h hier matin. Alors que le convoi pénitentiaire vient d'être attaqué, les gendarmes lancent le plan Épervier. 200 hommes mobilisés, le GIGN en appui, des barrages routiers, des hélicoptères dans le ciel. Ce plan d'urgence ne dure que quelques heures, mais permet de retrouver les deux véhicules des fugitifs incendiés un peu plus loin, en rase campagne. À bord d'un troisième véhicule, ils continuent leur fuite. La police judiciaire prend le relais de la traque. Des dizaines d'enquêteurs sont sur le pont, notamment ceux de la brigade des fugitifs. Un travail de fourmi passé au peigne fin, sa téléphonie, tous ses potentiels échanges avec des complices, ses proches, ses anciens co-détenus. Regardez également s'il y a de la vidéosurveillance. Tenter de retrouver le dernier véhicule de fuite. La BRI, elle, se tient prête à intervenir. Il faut savoir qu'une cavale coûte très cher. Payer les logements, les complices, d'éventuels faux papiers, trouver constamment de nouveaux véhicules, tenter de changer son apparence, un coup qui pourrait jouer en faveur des enquêteurs qui guettent la moindre erreur du commando en fuite.
Merci Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Je vous le disais en titre, deux agents de l'administration pénitentiaire âgés de 34 et 52 ans ont été tués. Trois autres agents grièvement blessés. Le pronostic vital est d'ailleurs encore engagé pour l'un d'eux.
Et d'après les représentants de l'administration pénitentiaire, cette attaque est inédite en France depuis 30 ans.
L'intersyndicale de l'administration pénitentiaire appelle un blocage des prisons aujourd'hui. Elle sera reçue par le ministre de la Justice cet après-midi et une minute de silence aura lieu tout à l'heure à 11h. Hier, quelques heures après la mort des deux agents, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti s'est rendu à Caen, au pôle de rattachement des extractions judiciaires. C'est de là que sont partis les surveillants tôt hier matin pour effectuer le transfert du détenu. Bonjour Arthur Pereira.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL, là où tout a commencé. Et l'émotion, Arthur, elle est nationale en fait.
Absolument, avec des dizaines de milliers de messages de soutien envoyés des quatre coins de la France, à commencer par le président de la République, mais aussi et avant tout par la grande famille des agents pénitentiaires, une famille en deuil ce matin, peut-on lire sur les différents communiqués, sans oublier les quelques mots, les quelques phrases des citoyens français touchés par ce drame, unis dans la douleur et la tristesse. Sur la façade du centre pénitentiaire devant laquelle je me trouve, le drapeau tricolore en berne. D'ailleurs, c'est devant cet imposant mur en pierre de 6 mètres que les agents pénitentiaires ont prévu de se rassembler d'ici 30 minutes pour une opération prison morte. Cela signifie qu'aucun agent ne prendra son service. Une opération nationale étendue notamment aux prisons de Toulouse, Aurillac, Bordeaux et même Brest.
Merci beaucoup Arthur Pereira.
6h04 sur RTL. La politique maintenant avec notre nouveau sondage Harris Interactive et Toluna pour RTL.
À 4 semaines du scrutin, la liste du Rassemblement National de Jordan Bardella reste nettement en tête. Elle accentue légèrement son avance même à 31,5% d'intention de vote pour la majorité présidentielle. La liste de Valérie Ayé reste stable à 15% devant la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann à 14%.
Nouvelle nuit d'émeute à Nouméa en Nouvelle-Calédonie.
Plus de 130 personnes ont été interpellées depuis lundi selon les autorités. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Malgré le couvre-feu en vigueur, les actes de vandalisme ont repris.
Oui, avec le pillage et l'incendie de grandes surfaces, de petits commerces, et ce n'était pas le cas jusqu'à présent, d'établissements publics avec des écoles et des collèges qui ont vu leurs fenêtres cassées, leurs portails éventrés, pillés eux aussi, et très vite cette nuit. Les vidéos d'affrontements dans les rues de Nouméa sont nombreuses sur les réseaux sociaux où l'on voit, pour mettre fin à ces pillages, les blindés de la gendarmerie avancer à faible allure. Alors qu'ils sont pris pour cible, c'est quasiment toujours les mêmes scènes, par des dizaines d'individus qui déboulent d'un peu partout dans les rues adjacentes pour leur jeter des cocktails Molotov, des pierres, des objets en verre ou des barres de fer. La réplique de gaz lacrymogène est souvent limitée. Certains convois obligent même des gendarmes à suivre à pied derrière le fourgon pour disperser plus facilement la foule. Difficile de progresser aussi. Plusieurs rues de Nouméa sont aujourd'hui en partie défoncées par les émeutiers pour récupérer des morceaux de bitume ou complètement bloquées par des carcasses de voitures calcinées, des tractopelles récupérées sur certains chantiers, des barricades. Il y a une constante en Nouvelle-Calédonie depuis le début des émeutes, ce sont les incendies. Nouméa se réveille encore ce matin avec d'épais nuages de fumée noire dans le ciel. La qualité de l'air n'est plus bonne pour les habitants. Et puis certains témoins nous expliquent aussi qu'il commence à être difficile de se nourrir puisque les commerces, ceux qui tiennent tout jour debout, ne peuvent pas encore être réapprovisionnés.
Merci Vincent Serrano. Hier, Emmanuel Macron a appelé au calme. Sur le fond, le président assure qu'un congrès se réunira avant la fin juin pour entériner une révision constitutionnelle. Si indépendantistes et loyalistes ne trouvent pas un accord sur un texte plus global entre-temps, le chef de l'État a d'ailleurs demandé à son Premier ministre et à Gérald Darmanin de recevoir les représentants des deux camps à Paris. Hier, l'Assemblée a adopté la révision constitutionnelle qui réforme le corps électoral. C'est le nœud du problème. Cette réforme, je vous le rappelle, elle prévoit d'ouvrir le scrutin provincial aux résidents installés depuis au moins 10 ans sur l'île. Les indépendantistes furieux craignent que cette réforme place le peuple kanak en minorité. Au Proche-Orient, les États-Unis vont procéder à une livraison d'armes à Israël pour environ 1 milliard de dollars, une semaine après que Joe Biden a menacé de limiter l'aide militaire. En cas d'assaut mené sur Rafah, le Congrès américain doit encore donner son accord.
Vous écoutez RTL, il est 6h07.
Vivez le 77e Festival de Cannes sur RTL.
Cérémonie 100% féminine, hein, donc hier soir pour l'ouverture du 77e Festival de Cannes.
Avec Camille Cotin en manette et une invitée prestigieuse, Meryl Streep, Stéphane Boutsock, au-delà des paillettes, les sujets de fond du moment ont tous été abordés.
Sobriété, élégance et humour. En trois petits quarts d'heure, Camille Cotin a planté le décor de cette édition 2024, alliant humour et sujet de fond.
Ah oui, je précise que les rendez-vous professionnels nocturnes dans les chambres d'hôtel des messieurs tout-puissants ne font plus partie des us et coutumes du vortex cannois, suite à l'adoption de la loi MeToo.
Et une fois le jury accueilli, place à la palme d'or d'honneur, longue ovation pour celle qui n'était plus venue à Cannes depuis 35 ans, Meryl Streep.
To you. Et je vous dois beaucoup, à vous tous, les cinéphiles. Vous ne vous êtes pas lassés de moi, vous n'êtes pas encore descendu du train.
Et puis, surprise musicale à la présidente du jury, Greta Gerwig, la reprise du tube Modern Love de David Bowie par la sensation pop française, Zao de Sagazan.
Stéphane Boutsock qui s'est bien amusé, notre monsieur cinéma, ici à RTL.
Et puis il y a du foot ce soir.
Avec deux matchs en retard de la 32e journée à 21h, Nice-PSG et Reims-Olympique de Marseille. Pour accrocher une place européenne, les Marseillais doivent remporter leurs deux derniers matchs.
On termine avec le quintet à Vincennes.
Départ à 13h55, attention, le 9 est non partant. Dominique Cordier vous suggère de jouer dans l'ordre le 13, l'As, le 12, le 6, le 16, le 3, le 14. Et l'outsider de RTL, c'est le 1, Fashion Touch.
Merci beaucoup Vincent Dorosier.
Quel accent.
À 7h30, oui, c'est fou.
On vous a compris.
Je pars avec un croissant du coup.
Alors les croissants effectivement qui sont apportés par
Georges Doucet
en studio avec nous depuis 5h ce matin. Il a remporté depuis lundi le prix du meilleur croissant du Grand Paris. On a un message de Jean-Vincent sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit super métier, produit exceptionnel, les viennoiseries bien françaises, bravo monsieur et toute sa famille pour nous régaler. Voilà, la famille Doucet, que vous trouvez dans le 12e arrondissement de Paris. Il y avait 117 candidats, je le rappelle. Hein.
117, oui.
Vous avez gagné et vous êtes avec nous en studio. On est ravis d'être avec vous ce matin, 6h09.
RTL Matin, le surf de l'info.
Cyprien, vous surfez donc avec la nouvelle campagne de la sécurité routière qui a pour slogan « Conduisez comme une femme ».
Et oui, on vous en parle beaucoup depuis hier et les chiffres sont implacables.
84% des accidents mortels sont causés par des hommes.
84% des permis invalides appartiennent aux hommes.
Toujours les hommes. Et là, j'en entends certains qui se disent au bistrot...
Après les statistiques, c'est les femmes qui ont le moins d'accidents.
Oui, ah oui.
Alors putain, qu'est-ce qu'elles en provoquent?
Ah bah bravo, car si les clichés persistent, c'est qu'ils ne datent pas d'hier. Et dans les années 70, bah...
La femme confond souvent la droite de la gauche, elle est prudente, mais les statistiques l'attestent, elles sont de grandes froisseuses d'ailes.
Pire encore, au JT de 1973.
Le permis de conduire s'est modernisé. Certains jeunes postulants éprouvent une certaine difficulté à se familiariser avec la nouvelle technique. Principalement des femmes d'ailleurs.
Ah oh bah oui d'ailleurs, principalement des femmes évidemment. Avec ce monsieur n'hésitant pas à parler de sa compagne.
Je crois que ça fait dans les 18 fois qu'elle a passé son permis.
Oh bah, magnifique, 18 fois. Des clichés tellement ancrés qu'on les retrouve même dans la fiction. Comme ici, un gars et une fille.
Et elle cale en plus. Allez, c'est bon, allez, mais casse-toi, t'es une vraie.
Ouais,
allez,
va.
Laisse-moi le volant. Tu ne sais pas conduire, tu ne sais pas ce que c'est qu'une bagnole.
Bah ouais, les bagnoles, c'est un truc d'homme. Mais ça va même plus loin. Une compagnie d'assurance avait même créé une option un peu particulière, spéciale femme. Écoutez bien.
Nous proposons l'erreur carburant. C'est en cas où la femme se trompe tout simplement de carburant lorsqu'elle leur fait le plein de sa voiture.
Eh ben oui, c'est un truc de bonne femme, ça, confondre le diesel et le sans-plomb, c'est typiquement féminin. Un cliché tellement établi que même les psys ont bossé sur le sujet.
Pour un homme, prendre des risques au volant, c'est montrer qu'il est un bon conducteur. Et montrer qu'il est un bon conducteur, c'est montrer qu'il est un homme.
Bravo messieurs, alors en 2024...
Femme au volant, mort au tournant.
On oublie ça, et d'ailleurs ça commence peut-être déjà à infuser. Écoutez donc ce monsieur entendu sur BFM TV.
Femme au volant, mort au tournant, ça ferait beaucoup de monde, mais moi j'y crois pas. Les femmes sont plus prudentes de manière générale. Elles font moins les kékés que nous.
Alors nous aussi, on va essayer de moins faire les kékés sur la route.
Merci beaucoup Cyprien Signy, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Notre invité dans un instant, le secrétaire général du syndicat UFAP UNSA Justice, alors que le blocage des établissements pénitentiaires a commencé depuis quelques minutes au lendemain de l'attaque mortelle d'un fourgon hier dans l'heure, 6h12.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Flavie Flamand sur RTL, jour J.
C'est le fleuron de la marine française. Un bâtiment de 40 000 tonnes de diplomatie, à bord duquel 2000 personnes vivent et travaillent chaque jour. C'est le Charles de Gaulle. Pourquoi est-il passé sous le commandement de l'OTAN dans le cadre de la mission Aquila? À quoi ressemble la vie à bord du Charles de Gaulle? L'ancien commandant du porte-avions, Sébastien Martineau, répondra à toutes ces questions ce soir à 20h dans jour J.
Chez BYD, nous croyons en vos rêves, le rêve d'atteindre vos objectifs. Pour cela, BYD développe depuis 30 ans son expertise dans l'innovation pour vous proposer une mobilité décarbonée en toute sécurité avec des véhicules électriques nouvelle génération. Chez BYD, nous sommes l'harmonie entre technologie, design et exigence. Build your dreams. Donnez vie à vos rêves. Retrouvez votre concessionnaire BYD sur byd.com/fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Cet été, vous allez rayonner. Préparez votre peau dès les premières expositions, sublimez votre bronzage et gardez un teint allé plus longtemps. Manaï Solaire, un complexe unique d'actifs dans une gélule végétale pour un teint naturellement ensoleillé et une peau éclatante de beauté. Manaï Solaire, un produit VitaVea. Pour votre santé, bougez plus.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel. Dans l'un de nos 4000 ateliers d'Asia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Avant d'accueillir notre invité, coup d'œil à votre journal de 6h30. Nous sommes à moins d'un mois des élections européennes. Jordan Bardella progresse encore dans notre dernier baromètre Harris Interactive Toluna pour RTL. Le chef de file du Rassemblement National gagne un demi-point en une semaine. Il est à 31,5% d'intention de vote. Valérie Ayer pour la majorité présidentielle est stable à 15% devant la liste PS de Raphaël Glucksmann. 14% stable également. La liste RN, première liste chez les jeunes, et pour certains ça devient un vote utile. Jean-Daniel Lévy est directeur délégué de Harris Interactive France.
il y a une baisse du nombre de jeunes qui ont voté pour Emmanuel Macron. La liste des jeunes, entre guillemets, c'est indéniablement la liste Bardella. Et également, des électeurs âgés, ils étaient rétifs à voter pour le Rassemblement National.
On y revient dans le journal de 6h30. Et puis, je vous rappelle, l'événement, 7h40, c'est Gérald Darmanin qui sera l'invité d'Amandine Bégaud au lendemain de l'attaque meurtrière de ce fourgon pénitentiaire hier dans l'heure.
RTL. Les trois questions du petit matin.
Et justement, nous accueillons Alexandre Caby. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat UFAP UNSA Justice. Merci d'être en direct avec nous au lendemain de cette attaque commando de ce fourgon pénitentiaire. Vous appelez avec vos collègues à bloquer aujourd'hui les prisons. Ça a commencé il y a quelques minutes en signe de soutien à vos collègues décédés hier ou blessés. D'abord, ça veut dire quoi concrètement? Bloquer quoi? Bloquer qui et combien de temps?
Alors, bloquer les établissements et l'ensemble des structures pénitentiaires, comme l'intersyndicale l'a appelé, dont fait partie l'UFAP UNSA Justice, c'est bloquer l'ensemble des entrées et sorties des établissements et des structures. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune entrée, aucune sortie, aucune extraction judiciaire, aucune amenée, et également une limitation claire des mouvements à l'intérieur. Hormis l'appel et les mouvements essentiels, il n'y aura aucune activité, il n'y aura aucun déplacement à l'intérieur des établissements. C'est ce qu'on appelle une journée prison morte. Donc, l'institution est à l'arrêt. Les syndicats appellent à bloquer totalement l'institution et donc les personnels se mobilisent massivement devant les structures. Je suis moi-même à Paris La Santé actuellement. On a déjà 30 ou 40 personnels qui sont mobilisés et ça arrive en nombre chaque minute.
Et ça pourrait durer combien de temps? C'est sur la journée uniquement?
Ah ben ça durera jusqu'à temps que le ministre comprenne que l'administration pénitentiaire aujourd'hui est malade et que le malade, il faut le soigner et qu'il nous faut une thérapie de choc et puis plus des petites mesurettes comme on a malheureusement ces derniers temps ou des effets d'annonce. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une réelle prise en compte des problématiques des personnels pénitentiaires que sont la surpopulation pénale, la sécurité, le rétablissement de l'autorité, des moyens matériels adéquats.
Mais comment on fait pour ça? Qu'est-ce que vous demandez concrètement puisque vous allez voir Éric Dupond-Moretti cet après-midi?
Tout à fait, je le verrai à 14h. Nous, ce qu'on demande, c'est une réduction drastique des extractions judiciaires en développant la visio au sein des établissements et en déplaçant, si nécessaire, les magistrats à l'intérieur des établissements. Une revue des moyens matériels pour nos collègues des missions extérieures avec des véhicules banalisés, du matériel adapté avec, pourquoi pas, des armes d'épaule. On demande également à ce qu'un plan de lutte anti-drone et des brouilleurs anti-téléphone soit développé, c'est-à-dire de manière bien plus importante, de façon à ce que les détenus ne puissent plus communiquer avec l'extérieur. On demande à ce que soit mis fin à la surpopulation pénale. Les politiques de ce pays, aujourd'hui, doivent prendre des décisions drastiques. Nous, on ne peut pas traiter 77 000 détenus de la manière dont on devrait en traiter 60 000.
Vous demandez
3 000 personnels en moins.
Vous demandez la limitation des extractions, parce que hier, le détenu donc, revenait d'un rendez-vous chez le juge à Rouen. Il rentrait au centre pénitentiaire d'Evreux. Ce genre de transfert est tenu au secret, normalement. Comment l'information a pu circuler?
Ce genre de transfert est tenu au secret, oui et non. Officiellement, l'administration n'avertit la personne détenue que la veille. Sauf que l'avocat, la famille, régulièrement sont informés. C'est un milieu qui n'est pas perméable. C'est-à-dire que le conseil a des échanges avec le détenu, il a des échanges avec la famille. Et donc, régulièrement, l'information est communiquée et puis elle se déverse ensuite dans la société civile. Et puis on arrive à des drames comme on en a connu hier. Il serait bien naturellement évident que si on pouvait apporter de la confidentialité et que ce genre d'instruction pouvait avoir lieu à l'intérieur des établissements, ben ça viendrait de fait éviter tout incident. Il faut limiter le nombre de sorties parce qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens d'assurer la sécurité des personnels sur la voie publique et donc il faut limiter les sorties de façon à ce que ce genre d'incident ne se reproduise plus. On a perdu deux collègues quand même. Il faut que le ministre entende qu'il faut des mesures fortes.
Est-ce que vos collègues, justement, est-ce que vous êtes préparés à ce genre de drame, ce qui est arrivé hier? Est-ce que vous avez des entraînements?
C'est compliqué, je pense, d'être entraîné à la mort de collègues. Nous n'avons pas...
Non mais à ce genre de hold-up, vous voyez ce que je veux dire?
Formation à l'attaque, où oui. Nos collègues des prêches sont naturellement formés à ce genre d'intervention sur la voie publique. Sauf qu'hier, on a eu affaire à un commando qui était quasi-militaire, organisé, millimétré, dans un schéma qui leur était propre, mais qui sont venus quand même attaquer de front le convoi avec le véhicule qui percute, un autre véhicule de côté, attaque à l'arme lourde. Nos collègues ne sont équipés que d'une arme de poing, de véhicules qui ne sont pas blindés, de véhicules qui sont sérigraphiés, donc ce sont des cibles mouvantes. Face à cette attaque hier, il aurait été très difficile d'agir. C'est pour ça qu'on exige que dans pareille mission, à partir d'une escorte 3, les ERIS ou les FSI soient automatiquement intégrés au dispositif, ce qui n'est plus le cas depuis 2019. Aujourd'hui, ça reste au conditionnel et au vu de ce qui s'est passé hier, c'est pas acceptable.
Oui, vous, vos collègues, vous vous sentez menacé quand vous venez travailler le matin ?
Au sein des établissements, clairement. Au sein des établissements, clairement. Au sein des prêches également. La sécurité n'est plus assurée sur la voie publique. La sécurité n'est plus assurée au sein des établissements pénitentiaires. Ce qu'on constate dans la société d'aujourd'hui, ce que certains politiques aiment appeler l'ensauvagement, on le constate tous les jours au sein de nos détentions. On a un réel recul de l'autorité et les personnels sont constamment remis en cause dans leur pratique professionnelle. On ne nous donne plus les moyens aujourd'hui de faire régner l'ordre au sein des établissements. Le vecteur disciplinaire, s'il est sous-utilisé, il est mal utilisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un détenu qui est retiré, à qui on retire le téléphone, il va faire quelques jours de quartier disciplinaire, peut-être même pas. On aménage la procédure disciplinaire avec des alternatives à la détention, avec des tiges. Mais sauf qu'on se rend compte que tout ce recul permanent de l'autorité a un effet délétère au long terme sur la gestion d'une détention.
Il y a plus de violence aujourd'hui dans les prisons qu'il y a 10-20 ans?
Ah oui, oui, clairement, oui. Le dernier plan national de lutte contre les violences recensait 4900 agressions en 2022. Une hausse, alors, je mets de côté la période Covid, une hausse très importante en rapport à 2019.
Merci beaucoup Alexandre Cabi, secrétaire général du syndicat UFAP UNSA Justice. Je rappelle que vous bloquez les établissements pénitentiaires depuis 6 heures ce matin et que vous rencontrez votre ministre Éric Dupond-Moretti cet après-midi à 14h. Merci beaucoup, bonne journée.
Pas de souci, merci, au revoir.
Merci, il est 6h21.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
Voilà donc une bonne nouvelle qui fera plaisir à tous les propriétaires de Toyota neuves ou d'occasion. Effectivement, pour chaque révision annuelle effectuée dans le réseau agréé, grâce au programme Toyota Relax, vous pourrez bénéficier d'une nouvelle garantie additionnelle d'un an. De quoi vous réjouir, surtout que vous pouvez profiter de Toyota Relax jusqu'aux 10 ans de votre véhicule. Voir conditions sur toyota.fr.
Soir dans RTL Bonsoir, retrouvez Marc-Antoine Lebray dans Lebray
King News.
Coucou mes crocus, c'est Stéphane Marie de Silence à
Pousse.
Bon, RTL Bonsoir, vous êtes comme un petit jardin de l'actualité. Isabelle, c'est le cerisier qui fait fleurir les infos. Julien, c'est un platane fort et robuste. Cyprien aussi, c'est un platane, mais en automne, il a perdu toutes ses feuilles.
Lebray
King News.
Avec Marc-Antoine Lebray, c'est juste après le journal de 18h sur RTL. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Mild Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199€ par mois. Arkana Business Mild Hybrid, 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000€. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si accordiaque, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Laissez-vous tenter, première.
Bonjour Isabelle Morini-Vos.
Bonjour tout le monde.
Alors c'est ce soir les 15 ans de Top Chef. Oui. C'est un programme que vous aimez alors que vous détestez cuisiner. Hein.
Oui, bah, je déteste aussi grimper aux arbres, mais j'adore les regarder. Hein. mais c'est vrai, cuisiner pour moi, je le redis, c'est comme les drones, ça me passe un peu au-dessus. Moi ce que j'aime, ce sont les odeurs et ça, à l'écran, on l'a pas. Mais une émission n'existe pas depuis 15 ans par hasard. On aime parce qu'il y a du suspense, du jeu, de l'enjeu et des résultats. En mars 2024, 38 candidats avaient été ou étaient étoilés au Michelin, 29 le sont toujours. Et j'adore le rappeler, le milieu snobait autrefois un programme qu'il plébiscite aujourd'hui. Ce soir, 6 candidats restants, chacun associé à un chef, ils seront jugés par 50 anciens candidats qui ont certes le palais fin, mais aussi la dent dure. Petit préambule.
Chaque semaine, un candidat va être éliminé et un chef va quitter la compétition. Comment vous réagissez à ça, Philippe Etchebest?
Marie et moi, on n'a pas l'intention de s'arrêter.
Oui.
Donc il faudra poser la question à quelqu'un d'autre.
Si moi je me fais éliminer, lui aussi, pour ma survie, j'ai intérêt à ne pas me faire éliminer.
C'est pas faux. Qui a coaché les 5 premières saisons? Cyril Lignac, Thierry Marx, Christian Constant, Guylaine Arabian, Jean-François Piège. Et qui a fait les 15? Eh ben, Stéphane Rottenberg. Il a donc vu Top Chef devenir un label.
On le doit justement aux premiers gagnants, mais pas forcément que les gagnants. Les premiers candidats sortis de Top Chef ont tout de suite ouvert des restaurants formidables. Et ça a terriblement crédibilisé le programme. On a eu très vite des étoilés. Les professionnels, ils ont vu ça. Et du coup, on a eu tous les plus grands chefs. Et puis du coup, en 15 ans, ça devient effectivement un vrai concours prestigieux qui compte.
Question bateau, s'il y a 15 ans, vous avez dit que 15 ans après, vous seriez encore là. Est-ce que vous l'auriez cru? Moi non.
Non, mais moi non plus. Lorsqu'on a racheté ce programme au dernier moment, parce que TF1 avait acheté un autre programme culinaire, voilà, à notre barbe. C'était un concours de pros. Et souvent, la recherche dans les castings, c'est des personnalités. Et là, le mot d'ordre, c'était le niveau, le niveau, le niveau. Pour durer, il fallait être crédible. Si on avait fait des ébulons et des ébulones, ça aurait peut-être pas duré longtemps. Bien sûr, quand on a les deux, c'est mieux, hein. Mais cette obsession du niveau nous a sauvés, saison 1.
Et il paraît que cette année, les coachs garçons alors, sont plus dissipés que les coachs filles.
Vous avez des infos? Vous voulez dire Vielle Etchebest Perret, plus dissipé que Darroz Lekelec, Dominique Rennes? Mais il veut cafeter, Stéphane Rothenberg?
C'est vrai que les garçons sont très turbulents. Parfois, il fallait les canaliser. C'est des mots, c'est une cour de récré. Les filles étaient plus rigoureuses, totalement déterminées à les battre. Pardon d'être un peu dans la caricature, mais c'est vrai qu'on avait des garçons difficiles à gérer, à décoder tout le temps, mais qui, au fond, voulaient quand même gagner. Et des filles qui se laissaient pas faire, posées, organisées.
Je résume, les garçons sont turbulents, les filles teigneuses.
Attention, elles sont capables de déconner, mais elles veulent gagner.
Oui, les garçons aiment la farce, pas seulement dans l'assiette. Alors à eux, la parole pour finir.
Non, il a pas pu dire teigneuse.
Nous, on a été sérieuses, bienveillantes, joyeuses. Bon, et un peu compétitrices quand même.
On les connaît, hein, on va pas les changer. Bon, on les aime comme ça.
La mayonnaise, elle a pris.
On a ajouté un tout petit peu de tabasco à la mayonnaise.
La mécanique de cette 15e saison, franchement, il fallait pas rater ça.
Pour ma part, quand tu sais que t'as un Glenn Vielle et un Paul Perret à tes côtés pendant plusieurs semaines, ça demande un petit moment de réflexion quand même avant de rempiler.
Tout pareil.
C'est une institution, Top Chef. C'est un peu le Roland Garros de l'histoire.
Ouais, c'est vrai. Hein.
C'est une marque.
27 candidats, 47 au total. Et bien, un petit reproche qu'on peut quand même avoir sur cette émission, c'est tous les kilos qu'on prend.
C'est
les kilos qu'on prend.
Pas moi,
ouais.
Ça va.
Oh, t'as pris un petit peu.
Non, ça va.
Oui, il y en a qui ont grossi aussi quand même. Alors, on retrouve Top Chef sur la nouvelle plateforme gratuite de streaming du groupe M6,
oui,
lancée aujourd'hui.
Ouais.
30 000 heures de programmes disponibles, tout genre confondu, dont 10 000 heures de contenu exclusif. C'est top. Chef, bien sûr.
Évidemment. Puis aussi les podcasts RTL hein, sur
oui.
Plateforme. M6
Plus.
Voilà, merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque, à tout à l'heure.
Si vous voulez bien.
Bah oui, on veut.
Laissez-vous tenter, première.
Allez, un extrait de vos grosses têtes que vous retrouvez tous les jours à 15h30 jusqu'à 18h. Laurent Ruquier et son équipe qui saluaient hier Philippe Claudel, sociétaire des grosses têtes, qui vient d'être élu président de l'Académie Goncourt.
Saluer notre camarade Philippe Claudel, puisqu'une grosse tête vient d'être élu président de l'Académie Goncourt.
Oh, c'est dingue.
Je suis très content pour Philippe Claudel.
Waouh. Je suis fier que Claudel y est au Goncourt.
Ouais. Si tu peux le dire en français, il sera très content.
Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. Marina.
Comment Jérôme.
Dire, comment dire?
Tout pareil que les jours précédents. Voilà, vous avez compris le programme et ce sera tout pareil les 7 jours qui vont suivre. Alors, des averses, des orages, de la neige en montagne, parfois un peu de vent, bref, un joli cocktail météo. Alors, on a la perturbation qui a concerné une bonne partie du pays hier, qui stagne sur l'est du pays. Donc en ce moment, il y a pas mal d'averses de la Provence-Alpes, Côte d'Azur, Rhône-Alpes, remontant vers la Franche-Comté et le Grand Est. Et cette perturbation va rester comme ça, à faire du surplace sur la façade est du pays, où ça restera perturbé toute la journée, avec des orages même sur Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse, dès ce matin. Et puis, à l'arrière, on a un ciel de traîne, donc un ciel après une perturbation, mais très actif sur les régions atlantiques, donc des averses nombreuses, parfois accompagnées de vent. Les orages, ce sera plus cet après-midi sur l'ouest du pays, mais voilà, ce sera aussi perturbé avec de la neige sur les Pyrénées à partir de 1900 mètres. Mais il y a quand même une poche entre les deux, où on aura un temps un petit peu moins moche, et ça c'est pas mal, avec plus d'éclaircies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un risque de nuages et d'averses, mais vous aurez un peu plus d'éclaircies sur la Normandie, la région parisienne, aussi le centre Val-de-Loire et la Bourgogne, et cet après-midi aussi un petit peu sur les Hauts-de-France.
Merci beaucoup Marina. Les températures peut-être?
Oui, comme hier, ça n'a pas beaucoup bougé, entre 14 et 21 degrés avec des pointes à 22-24 en Corse.
Merci beaucoup. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin gourmande ce matin grâce au croissant de notre ami Georges Doucet qui a remporté le concours du meilleur croissant du Grand Paris et qui nous a apporté donc ses croissants ce matin. Que tout le monde est en train de déguster dans ce studio. C'est Marina Giraudot, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous.
Bonjour.
Alba, un point c'est tout au Festival de Cannes. On attend les acteurs du film Un petit truc en plus dans leurs habits de lumière et on espère le réalisateur iranien Mohamed Rasoulof.
Bah c'est ça, ce sont des temps forts comme on dit et le réalisateur iranien dont le film est en compétition a fui son pays il y a quelques jours et il est très attendu à Cannes.
Marina, de la lave froide fait des dizaines de morts en Indonésie. Lave froide, a priori deux mots qui ne vont pas ensemble.
Bah oui, et la lave froide, c'est plus dangereux que la lave toute chaude qui sort du volcan en éruption. Je vous explique tout ça dans un quart d'heure.
Martial, que vont nous rapporter les JO, à part des médailles?
Après la médaille d'or du croissant, oui, effectivement, on parle quand même de 16 millions de visiteurs pour les Jeux, de 9 milliards de rentrées, mais il y a toujours cette idée. Et si on était comme la Grèce, avec ce risque de faire ensuite faillite à cause des jeux, je vous décrypte ça.
Florian, les pourquoi de l'info ce matin ?
Demain, c'est la sortie de la nouvelle édition du Robert, le mythique dictionnaire. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi ce dictionnaire n'aurait sans doute jamais existé sans des oranges et des citrons.
Ah bon ?
Oui.
Quelle drôle d'histoire. Bah oui. Mercredi 15 mai. Tiens, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Mike Oldfield, le musicien anglais. 71 ans. Alors, vous connaissez le nom de la chanteuse que j'ai oublié, Florian ?
C'était Maggie quelque chose, voilà. J'ai la moitié.
Maggie Reilly.
Voilà.
Le réalisateur Sébastien. Merci beaucoup. Excellent début de journée. Vous écoutez RTL. Il est 6h30.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Et on accueille Antoine Cavallero pour le journal. Bonjour Antoine.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
Et à la une, la traque qui se poursuit.
À la recherche des auteurs de cette attaque meurtrière d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure. Vous entendrez la mère du détenu en cavale, c'est un document RTL M6. Ce matin, il y a aussi l'émotion des agents sous le choc après la mort de deux de leurs collègues, un père de famille de 52 ans, un fonctionnaire de 34 ans qui s'apprêtait à devenir papa. Un drame qui bouleverse notre pays. Ce matin sur RTL, Gérald Darmanin prend la parole, le ministre de l'Intérieur, invité à 7h40. Dans ce journal également, une nouvelle nuit d'émeute en Nouvelle-Calédonie. Notre dernier sondage sur les européennes, il est tout chaud, le RN toujours tout en haut et qui attire de plus en plus de jeunes. Et puis une émission qui a suscité bien des vocations. Top Chef célèbre ses 15 ans ce soir.
RTL Matin.
Un délinquant évadé, un commando lourdement armé, 5 hommes activement recherchés ce matin. Les auteurs de cette attaque spectaculaire, hier matin dans l'Eure, le guet-apens d'un fourgon pénitentiaire sur un péage d'autoroute, c'est une première depuis 30 ans. 2 agents ont été tués, 3 gravement blessés, l'un d'entre eux se trouve toujours entre la vie et la mort. À bord du fourgon, Mohamed Amra, 30 ans, condamné notamment pour vol avec effraction. Sa maman prend la parole sur RTL, sa voix a été modifiée, elle ne reconnaît n'est pas son fils.
J'ai craqué, j'ai pleuré, c'est vrai que j'ai pleuré, j'étais pas bien. Comment on peut ôter des vies comme ça qui me rend malade? C'est grave quand même, c'est grave. Ils trimballent de droite à gauche, ils le mettent en isolement, au lieu de le juger une bonne fois pour toutes. Comment vous voulez pas comment il sert dans sa tête? Je sais pas moi ce qu'il a. Moi il me parle pas. Moi, il me parle pas, c'est mon fils, il me parle de rien. J'étais au Beaumet, j'étais le voir, il était en isolement. Après, je suis allé à Évreux une fois. On parlait normal, il y a pas. Moi, il m'a rien montré, je comprends pas.
Document RTL M6 recueilli par Plana Radenovic.
Une attaque qui plonge toute une profession dans l'incompréhension. Les agents pénitentiaires se mobilisent ce matin.
Opération prison morte dans tout le pays. Il y aura une minute de silence respectée à 11h. Les fonctionnaires rendent hommage à leurs 2 collègues. La procureure de Paris, Laure Becco, a pris la parole hier soir. Elle a donné plus de détails sur le profil des 2 victimes.
L'un, âgé de 52 ans, était capitaine. Travaillé dans l'administration pénitentiaire depuis 1996, il était paxé et père de 2 jumeaux nés en 2003, dont l'anniversaire allait être prochainement fêté. Le second, âgé de 34 ans, était marié et attendait la naissance d'un enfant. Il était surveillant brigadier depuis novembre 2009. Les 3 agents blessés, âgés de 48 ans, 52 ans et 55 ans, sont tous pères de famille.
Laure Becquio, procureur de Paris. Des agents mobilisés pour leurs 2 collègues et qui ont des revendications.
Ils veulent notamment limiter les extractions, la sortie des détenus, comme c'était le cas hier. Le prisonnier transporté de sa prison d'Évreux au tribunal de Rouen. Mohamed Amra n'était pas un détenu particulièrement signalé. Le niveau d'escorte tout de même fixé à l'échelon numéro 3. Cindy Hubert, comment tout cela est déterminé ?
Alors pour bien comprendre, les niveaux vont de 1 à 4, c'est le chef d'établissement qui décide du niveau d'escorte. Ici, vu le profil criminel du détenu, vu son début de tentative d'évasion, puisque l'homme avait tenté de scier les barreaux de sa cellule quelques jours avant, c'est le niveau 3 qui était adapté et qui a été choisi. Cela implique une voiture suiveuse derrière le fourgon, 5 personnes en tout, équipées de gilets pare-balles, armées d'un pistolet 9 mm, et ce n'est qu'au tout dernier niveau, au niveau
niveau 4 qu'il y a un appui des forces d'élite, le RAID ou le GIGN, réservé aux plus gros profils. C'est le cas pour le roi de l'évasion, Antonio Ferrara par exemple, ou pour le terroriste Salah Abdeslam.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Et alors, quelle réponse du gouvernement après ce drame ? Gérald Darmanin est sur RTL ce matin, le ministre de l'Intérieur, invité exceptionnel d'Amandine Bégaud à 7h40.
Gérald Darmanin qui répondra également aux questions sur la Nouvelle-Calédonie. Le caillou, comme on dit, a connu une nouvelle nuit d'émeute.
Les mêmes images qu'hier, des incendies, des commerces pillés, des pneus brûlés sur la chaussée, au moins 130 personnes interpellées, alors qu'au même moment, l'Assemblée nationale a adopté la révision constitutionnelle sur l'archipel. L'étincelle de ces violences, la réforme vise à élargir le corps électoral. Les indépendantistes craignent de se voir marginalisés, ils réclament le retrait du projet de loi, mais ils condamnent également les violences et appellent au calme.
À moins d'un mois des élections européennes, le Rassemblement national caracole toujours.
Largement en tête dans notre toute dernière enquête hebdomadaire Harris Interactive Toluna, le RN crédité à 31,5% d'intention de vote, plus 0,5%. Et ce qui interpelle, c'est le vote des jeunes. Jordan Bardella attire 28% des 18-24 ans. Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Harris Interactive.
Déjà, d'une manière tendancielle, il y a une baisse du nombre de jeunes qui ont voté pour Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle. La liste aujourd'hui des jeunes, entre guillemets, c'est indéniablement la liste qui est conduite par Jordan Bardella. Il arrive à progresser chez des jeunes diplômés et également qu'il arrive à fédérer derrière lui des électeurs qui sont âgés, dont on sait par le passé qu'ils étaient rétifs à voter pour le Rassemblement National. Il apparaît comme étant une formation politique rassurante, qui pose des vrais débats et surtout qui ne leur donne pas le sentiment d'être incompétents, leur donne une crédibilité au niveau européen.
Et dans notre sondage, le camp présidentiel reste stable à 15%, devant le Parti Socialiste à 14%. Vous avez tous les détails sur RTL.fr.
Les sports et du football, d'abord avec l'OM qui doit gagner pour rêver d'Europe.
Marseille joue à Reims ce soir, c'est un match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Le PSG, déjà sacré champion, se déplace à Nice, les deux matchs à 21h. Du cyclisme également, avec en une du journal L'Équipe ce matin, la rage victorieuse de Valentin Paré-Peintre, le grimpeur de l'équipe Décathlon à G2R, la mondiale, a remporté hier la 10e étape du Giro. Tadej Pogacar est toujours le leader, le maillot rose du Tour d'Italie. À Cannes, le tapis est rouge, là c'est du cinéma, une cérémonie girl power. Hier soir, pour l'ouverture de la 77e édition, le casting Camille Cotin, Meryl Streep ou encore Zao de Sagazan.
On en parlait avec Isabelle Morini-Bosque il y a quelques minutes, les 15 ans d'une émission phare. Ce soir, c'est l'anniversaire de Top Chef sur M6.
15 ans de je vais partir sûr ou on lève les bras, c'est terminé. L'émission de cuisine a révolutionné le genre. Et plus surprenant encore, Laurent Marsic, elle a suscité des vocations.
Oui, c'est probablement un effet auquel les concepteurs de ces émissions de télé ne s'attendaient pas.
Je prends ma carotte, je la mets dans mon laboratoire et j'en fais un tournesol.
Effet bénéfique, raconte ce chef qui officie dans l'école hôtelière Jean Drouin à Paris, là où sont organisées les sélections Top Chef depuis plusieurs années. Jamil Fattara, chef de cuisine et enseignant à l'école Jean Drouin.
Ces émissions ont permis de démocratiser la cuisine et de la rendre accessible au plus grand nombre. Nous, on le voit, en l'occurrence cette année, j'ai des différents niveaux de classe qui, grâce à ces émissions, ont eu l'envie de découvrir le monde de l'hôtellerie-restauration qui semblait un peu inaccessible auparavant.
Un art qui fait rêver les jeunes et qui rassure les parents, expliquent ces deux apprentis cuisiniers.
Selon moi, c'est l'acceptation, plus au niveau des parents, de se rendre compte que c'est hyper valorisant la cuisine.
Toutes les émissions, Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, je les regardais, ouais. Ça m'a donné envie de faire de la cuisine ou de la pâtisserie, d'oser le faire, voilà.
Des émissions de cuisine qui ont aussi affûté les palais des consommateurs et qui poussent les chefs à être de plus en plus créatifs.
C'est le plus moche, gustativement pour moi c'est le meilleur depuis le début.
Ouais, c'est impactant. Hein.
Un reportage impactant de Laurent Marsic. Et alors pour le programme du soir, les 6 candidats encore en lice vont cuisiner pour un jury exceptionnel. 50 anciens participants, c'est ce soir sur M6 à 21h10. Et pour tous les fans de l'émission, il y a toutes les saisons sur la nouvelle plateforme du groupe. M6 Plus est disponible, plus de 300 films, le même nombre de séries, 30 000 heures de programme au total et le tout gratuitement. À noter que vous y retrouvez également les podcasts RTL.
Merci beaucoup Antoine Cavaillerou, vous revenez à
8h. À 8h.
A tout à l'heure, 6h38. Et on accueille au standard maintenant un surveillant pénitentiaire, Jérôme, du côté de Fresnes, en Ile-de-France. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler. Vous êtes très en colère ce matin, au lendemain évidemment de cette attaque meurtrière de ce fourgon dans l'heure. Est-ce que c'était une attaque, on entend beaucoup dire c'était prévisible, vu les peu de moyens qu'on a aujourd'hui, vu le peu de moyens qu'on a?
Totalement prévisible. Aujourd'hui, comme j'ai dit, avant tout, toutes mes pensées vont vers les familles des collègues tombés hier, vers aussi le collègue qui est en train de se battre aujourd'hui entre la vie et la mort. Oui, c'était prévisible. Aujourd'hui, on a affaire à une population carcérale qui ont des complices. Ils tirent à l'arme de guerre. Nous, excusez-moi du terme, les mots vont être forts, mais on a des pistolets à eau face à eux. On a des pistolets à eau. Hier, on a entendu, il paraît qu'on avait des armes longues dans les véhicules pénitentiaires. Non. Nous, les escortes judiciaires, donc les prêches. Moi, j'appartiens au prêche 94.
C'est quoi le prêche 94?
Pôle de rattachement des extractions judiciaires.
Merci.
On a du 9 mm. On a des pistolets à la ceinture, 9 mm.
C'est ça que vous allez demander cet après-midi, parce que les syndicats voient Éric Dupond-Moretti cet après-midi. C'est ça l'urgence aujourd'hui?
On a les 9 mm. On n'a aucune... On est formé sur le terrain pour réaliser des extractions judiciaires. On est formé pour... On a des formations compliquées. Voilà. Sur 10 surveillants qui vont partir en formation, 4 ou 5 vont réussir la formation. C'est une formation assez poussée, assez difficile.
Mais ça veut dire qu'il y a les autres qui ne réussissent pas cette formation et qui sont là quand même.
Non, ils ne sont pas là. Si vous réussissez, si la formation n'est pas validée, vous n'intégrez pas cette unité.
Quelle est l'urgence aujourd'hui, Jérôme? Qu'est-ce qu'il faut demander cet après-midi au ministre de la Justice?
Il nous faut des moyens.
Mais quels moyens en urgence, là, aujourd'hui?
Là, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des dotations personnelles de gilets lourds pour tous les extractions. On sort avec des gilets qui arrêtent du 9 mm, on ne sort pas avec des gilets qui arrêtent les armes de guerre. Il nous faut des moyens. On a des véhicules, comme vous avez pu voir sur la vidéo, un Renault Master. Un véhicule de livraison de chez DHL. On sort des détenus avec des véhicules de livraison. Il n'y a aucun blindage. Il faut arrêter. Aujourd'hui, on a deux collègues qui sont tombés. Et ce qui me met encore plus en colère, c'est quand on entend... Excusez-moi, mais je suis... C'est l'émotion.
Allez-y, on l'entend, Jérôme, pas de problème.
Excusez-moi.
Bon, on entend votre émotion, on entend votre colère.
Quand vous entendez qu'on se permet de faire parler la mère de cette personne qui s'est évadée, je vais peser mes mots, je vais dire cette personne, parce que tout à l'heure j'avais des mots plus durs, et je me contiens. Quand on entend parler, mais il est où le respect pour les familles, les deux collègues qui sont tombés? Il faut arrêter de la faire parler, il faut arrêter.
Elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas son fils et on a entendu
c'est pas nous qui l'avons mis au monde.
Bah écoutez,
c'est pas nous qui l'avons mis au monde. Nous aujourd'hui, on a deux collègues qui sont tombés. Il y a deux collègues qui sont tombés aujourd'hui. Aujourd'hui, Fren, c'est mort. Il n'y a rien. Tous mes collègues d'extraction, on est tous devant la base. On ne sort pas. On ne part pas en mission. Le quartier de Fren, les collègues de détention nous ont rejoints. Il n'y a pas d'extraction aujourd'hui.
C'est un blocage, c'est une journée morte dans les prisons, on l'a bien compris. Et les syndicats rencontreront cet après-midi le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Et je rappelle que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui sera l'invité exceptionnel de RTL. Dans une heure maintenant, il répondra aux questions d'Amandine Bégaud tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce témoignage chargé d'émotion et de colère. On l'a bien compris, Jérôme. Bonne journée à vous. Il est 6h43.
Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
Chez Grand Frais, nous travaillons en direct avec plus de 1000 producteurs français comme Simon, notre producteur de fraises.
Et à chaque fois qu'on arrive sur sa propriété, on se fait courser par Brutus, le chien de la ferme. Gentil, Brutus, gentil.
Ah, c'est tendu, mais bon, les fraises de Simon sont tellement bonnes...
Allez, va chercher la baballe.
Chez Grand Frais, nous sommes prêts à tout pour dénicher les bons producteurs et les bons produits pour vous proposer chaque jour plus de 300 fruits et légumes ultra frais. Grand Frais, sélectionneur passionné de producteurs passionnés. RTL.
Salut, c'est Antoine Dupont. Mon truc pour récupérer rapidement entre deux matchs de rugby, le roller pur essentiel articulation et muscles. C'est mon coach antidouleur. Il est aussi efficace que naturel.
Le roller pur essentiel articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturel. Dispositif médical en pharmacie.
Et contre les courbatures, rien de mieux que l'huile de massage Arnica Golteri pur essentiel. Avant et après l'effort.
Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
12h30.
Allez, échauffement.
12h32. 12h33. Go!
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. RTL Matin.
Avec Jérôme Florent.
6h44 sur RTL, soyez les bienvenus et merci de commencer la journée avec nous. C'est votre tablé du petit matin. Il y a Marina Giraudeau, Martial You, Florian Gazan, Alba Ventura. Alba, on le disait hier matin, tout est bien qui finit bien pour les acteurs du film. Un petit truc en plus. Finalement, ils seront tous habillés par de grandes marques de luxe.
Ben voilà, exactement comme les autres acteurs qui défileront sur la croisette. Donc les deux géants du luxe, ouais. Kering et LVMH, ont répondu présent finalement. Alors hier matin, on vous annonçait qu'LVMH était déjà sur le pont, et ce qui est totalement vrai pour le costume d'Artus, costume Dior. Mais pour les autres acteurs, c'est Kering qui est à la manœuvre, qui met à disposition ses marques telles que Gucci, Saint Laurent, McQueen et d'autres. Alors il fallait absolument apporter cette précision parce que, Martial le disait hier, c'est l'éternel bagarre entre Bernard Arnault LVMH et François-Henri Pinault Kering, les deux grands industriels français du luxe. Vous savez, il y a un peu tirage de smoking. Bon, moi je voulais quand même parler d'autre chose parce qu'il y en a un qui est sans doute très loin de tout cela et qui, smoking ou pas smoking, espère être à Cannes prochainement. C'est le réalisateur iranien Mohammad Rasoulof. Son film Les graines du figuier sauvage est en lice pour la Palme d'Or. Mohammad Rasoulof est sous le coup d'une condamnation à 8 ans de prison par le régime iranien. Son passeport lui a été confisqué et c'est pour cela qu'il s'est enfui clandestinement à travers les montagnes. À l'heure où l'on se parle, on sait seulement qu'il est en Europe, dans un endroit tenu secret. Le Quai d'Orsay, bien sûr, gère l'affaire. Certains membres de son équipe aussi ont fui, mais d'autres non. Évidemment, on croise les doigts pour que Mohammad Rasoulof foule le tapis rouge et pour qu'il brise la malédiction de Cannes, cette malédiction selon laquelle à chaque fois qu'un film iranien est présenté au festival, eh bien son réalisateur est empêché par le régime de quitter son pays. Écoutez, lui a déjà fait une partie du voyage et c'est mon coup de cœur.
Merci beaucoup, un point c'est tout, Alba Ventura. Marina, vous nous emmenez à 16 000 km de la France, direction l'Indonésie, ce matin avec cette éruption volcanique aux conséquences désastreuses. C'est le volcan du mont Marapi sur l'île de Sumatra. Le dernier bilan, et là il est tombé il y a quelques minutes, il est de 58 morts, de 35 disparus. Des personnes décédées en raison de la lave froide. Alors là on veut tout comprendre parce que pour moi ce qui sort du volcan est rouge et ne semble pas très froid, donc il va falloir nous expliquer.
Alors vous avez raison, hein, la lave quand elle sort du volcan à une température... Bah, tiens, d'ailleurs d'après vous la tablée... Allez je vous interroge, de combien de degrés en sortant à l'éruption en fait la lave
froide?
La lave qui sort, non, pas la lave.
La lave,
la lave classique.
1000 degrés, non, un truc comme ça.
Ouais, bah c'est ça, ouais. 1200 degrés, c'est exactement la moyenne, fastoche, exactement. Là, vous êtes cuit sur place. Alors, certes, la lave au contact de l'air se durcit, se refroidit très vite, mais on reste quand même à plusieurs centaines de degrés, aux alentours de 500 degrés. On parle de lave froide quand, en plus, il pleut et que l'eau de pluie se mélange à la lave. La lave qui est composée de roches, de sable, de cendres et de gaz.
Et c'est plus dangereux?
Oui, car la lave classique, qui est en majorité faite de matière solide, donc, est lourde et avance lentement, en moyenne à 10 km/h. On a tous vu des images de lave dévalant les pentes très lentement. Les habitants ont le temps de réagir. Mais avec l'eau, elle devient forcément plus liquide, avance plus vite. Et là, on a affaire à ce qui ressemble de gigantesques coulées de boue qui emportent tout sur leur passage, comme en fait après un violent orage.
Et c'est ce qui s'est passé sur l'île de Sumatra en Indonésie.
Exactement, il y a eu des pluies torrentielles samedi soir et mélangées à la lave, les routes se sont transformées en rivières boueuses, emportant les véhicules, endommageant les maisons. Mais surtout, une fois l'eau passée, les sols, les cultures, donc ce sont des rizières là-bas, les objets sont recouverts de boue, mais des quantités de boue très importantes, puisqu'en plus de ce qui est emporté par l'eau, il y a la matière qui compose la lave. Par exemple, j'ai vu une image où vous voyez un scooter. Alors le scooter, il tient penché, il est appuyé contre rien, mais en fait la boue s'est cristallisée sur le scooter et l'a figé, l'empêchant de tomber. C'est un vrai film de science-fiction.
En parlant de volcan, c'est quoi le magma par rapport à la lave?
Alors le magma, c'est la lave quand elle est dans le cratère du volcan. Une fois que ce magma sort, il prend le nom de lave en fait. C'est juste, il change de nom quand il change d'endroit.
D'accord. Merci beaucoup Marina, 6h48.
Martial, une grande question ce matin. Les JO vont-ils rapporter de l'argent à l'économie française ou aggraver encore nos déficits? Les organisateurs ont indiqué hier quelles seraient les retombées économiques de l'événement.
Oui, c'est vrai que c'est la question en fait du coût réel d'une telle compétition qui se pose pratiquement à chaque fois depuis les JO d'Athènes en 2004, parce qu'on estime que l'événement avait précipité la faillite du pays dans la foulée. Alors la France, c'est pas la Grèce quand même, il faut le rappeler, même si on a une dette abyssale et un déficit record. On estime que les Jeux à Paris ont coûté à ce jour, on verra à la fin, 9 milliards. C'est 10% de plus que prévu, mais c'est lié notamment à l'inflation qu'on a connue évidemment ces derniers mois.
Et c'est beaucoup, 9 milliards pour
Non, 9 milliards, c'est un des plus petits budgets de l'histoire des comités d'organisation des Jeux Olympiques. Il faut dire qu'on s'est beaucoup appuyé sur les infrastructures qui existaient déjà. À Athènes, ça avait coûté 15 milliards et demi, selon le cabinet Asterès. À Pékin et à Rio, 45 milliards. Tokyo, environ 20 milliards. Donc, les organisateurs pensent que les Jeux vont occasionner environ 9 milliards d'euros de retombées économiques pour la région Île-de-France, qui est la première région économique. Donc, vous voyez, ça s'équilibre.
Est-ce que les Jeux vont booster l'économie?
Ah bah ça, c'est le pari que fait Olivia Grégoire, la ministre du Tourisme. Elle espère que les JO vont doper la croissance du pays au troisième trimestre. Alors, il y aura sûrement un petit effet placebo, parce que si tout se passe bien, les Jeux vont être un moment festif, joyeux, et c'est bon pour la consommation. Parce qu'on attend 15 à 16 millions de touristes dans la capitale cet été aussi, c'est plus que d'habitude. Puis, il y a des retombées immatérielles. La vitrine des JO, ça peut attirer de nouveaux touristes dans les prochains mois. Mais ça ne va pas changer fondamentalement la situation économique de la France. On va pas changer le plomb de la dette en médaille d'or. Si les Jeux rapportent 9 milliards à la région parisienne, ça représente, j'ai fait le calcul, 0,1% du PIB de l'Île-de-France. Donc l'effet jeu est assez marginal.
Bon, est-ce que les Jeux vont créer des emplois?
Alors oui, les Jeux ont déjà créé des emplois. 181 000 emplois depuis qu'on a obtenu l'investiture. Vous en avez 30 000 par exemple dans le BTP pour les chantiers, 61 800 dans le tourisme. Les Jeux font travailler 1593 TPE-PME du pays et 88% des contrats de prestataires ont été décrochés par des entreprises tricolores, donc cocorico économique aussi.
Et les emplois sont pérennes?
Oui, parce qu'ils comblent un manque. On va conserver, par exemple, 48 000 emplois dans l'hôtellerie-restauration, 3 000 dans le nettoyage, 26 600 dans la sécurité. Les JO, ils ont permis, en réalité, d'attirer des candidats pour les recrutements dans des secteurs qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre chronique.
Et pour la Seine-Saint-Denis, département métropolitain le plus pauvre, ça aura des incidences positives?
Oui, parce qu'une partie du village des athlètes va devenir un quartier résidentiel, avec des bureaux, des commerces, des logements. On estime que ça va permettre d'héberger 6000 personnes de plus et d'ouvrir un groupe scolaire. Donc oui, il y aura des retombées aussi pour les habitants.
Votre plus, Martial, Nose continue à vendre les stocks des entreprises en redressement judiciaire.
Oui, le déstockeur avait déjà écoulé les produits Habitat ces derniers jours, des vêtements Camailleux, des chaussures sans Marina. Il poursuit en proposant la semaine prochaine des milliers de paires de l'enseigne Minelli à prix cassé.
Votre note, 5 sur 20 aux cyclistes.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
Oui, ça correspond au nombre de Français qui font régulièrement du vélo, 1 sur 4. Donc, certes, c'est 5 sur 20, mais c'est pas une mauvaise note. Parce que le nombre progresse depuis le Covid. C'est bon pour la santé et l'environnement, bien sûr. Et selon une enquête CSA, donc, qui vient d'être publiée, c'est dans les Pays de la Loire. Cocorico pour moi.
Et
pour Marina. Ouais. C'est dans les Pays de la Loire qu'on pratique le plus la bicyclette.
Dans le sud, on en fait
beaucoup.
C'est vrai
que les vendeurs de vélos sont en rupture partout.
Hein. Oui.
Il faut attendre des...
C'est Florian qui les achète tous.
C'est ça. Plusieurs en même temps.
Il a fait du vélo hier, Florian, avec la pluie.
Non. Ce week-end, on en a fait, puis il faisait beau. Ouais.
Bon, allez, c'est demain que sort la nouvelle édition du Petit Robert, qui nous permet désormais de dire, grâce à certains de ces nouveaux mots, qu'un TikToker sapiosexuel qui fait du sessifoot a un sacré flow.
Je sais pas si on vous dit. Ouais, mais vous pouvez.
Et vous allez, Florian, donc nous expliquer pourquoi des oranges et des citrons ont donné naissance au Petit Robert.
Ouais, Jérôme, car tout est parti d'une thèse d'économie politique sur les agrumes dans le monde que décide de rédiger Paul Robert en 1940. Car oui, le Robert, ça vient de son nom de famille. Et ce thème qu'il a choisi n'est pas un hasard, puisque le papa de ce Français, né en Algérie, possède alors une exploitation agrumicole. C'est comme ça qu'on dit quand on fait pousser des oranges. J'ai vérifié évidemment dans le Petit Robert.
Et justement, comment il l'invente ce dictionnaire?
Eh bien, en écrivant cette thèse, il s'arrête vite les cheveux parce qu'il est face à pas mal de termes techniques qui existent en anglais, en espagnol, mais n'ont pas d'équivalent français. Mmh. Et aussi parce que son obsession du mot juste n'est assouvie par aucun dictionnaire existant. Il y a bien le littré, mais qui est dépassé puisque sa dernière mise à jour remonte à 1875. Et aussi le Larousse en 6 volumes, mais qui est un dictionnaire encyclopédique, donc pas vraiment adapté aux besoins de Paul Robert.
Et ce sont quoi ces besoins?
Et ce qui va faire et fait encore la différence entre le Robert et le Larousse, lui, il a besoin d'un ouvrage qui fonctionne par analogie, ou un certains mots renvoient vers d'autres. Comme il dit, la clé des mots se trouve dans leur définition. Par exemple, troglodyte évoque caverne. Un ouvrage où l'étymologie d'un mot est présente, c'est synonyme aussi son utilisation dans des exemples. Bref, le dictionnaire qu'il lui faut n'existant pas, bah il décide de le créer en 1945. Alors dans un premier temps, c'est juste à des fins personnel.
Mais je comprends pas, il fait ça tout seul ?
Oui, tout seul. Mais encouragé par de prestigieux académiciens comme Georges Duhamel ou André Monroy, il décide de passer la vitesse supérieure et de rédiger un dictionnaire grand public. Il s'installe à Casablanca, où il monte sa maison d'édition, il engage des rédacteurs, le tout financé en partie par son héritage. Alors dès lors, pas le choix, il doit aller au bout et surtout prier pour que ça marche. Le 28 juin 1964, il met le point final au dernier article de ce dictionnaire, en 6 volumes, le mot zymotique.
Et ça veut dire quoi ?
Qui est relatif à la fermentation, et il a bien fermenté son dictionnaire, puisque Paul Robert lui aura consacré 20 ans de sa vie. En 1967, il crée le petit Robert, et ses 60 000 mots, dont 1000 à 1500 modifiés chaque édition. Tous les ans, environ 150 mots ou nouveaux usages d'un mot apparaissent. Paul Robert est décédé en 1980, mais il est toujours dans son propre dictionnaire, en hommage au mot. Agrumes, on trouve en citation un extrait de sa fameuse thèse sur ses citrons, ses oranges, sans lesquels nous n'aurions pas chez nous le fruit de sa passion pour les mots.
Merci beaucoup Florian, merci à toute la tablée. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
Vous verrez que parfois la campagne des européennes a des airs de grand n'importe quoi.
Et je signale à l'instant cette dépêche qui nous arrive liée aux violences en Nouvelle-Calédonie. On apprend qu'une personne a été tuée par balle. Donc évidemment, et je rappelle que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité exceptionnel de RTL à 7h40. Et il aura évidemment l'occasion de revenir sur ce qui se passe en ce moment à Nouméa. Restez avec nous, il est 6h55.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de piou ! Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, découvrez notre cuisine en kit de la nouvelle collection à moins de 1 500 € seulement. Moins de 1 500 € la cuisine, garantie 25 ans et fabriquée par la paire. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
C'est quoi ce petit sourire ?
Je viens de raccrocher avec mon conseiller Carac.
Pour ton plan d'épargne retraite ?
J'ai fait le point sur mes placements. À la Carac, ils ont un fonds en euros parmi les plus performants du marché, figure-toi.
Et c'est avantageux fiscalement ?
Oui, je peux réduire le montant de mes impôts et je vais avoir une meilleure retraite.
Top !
Et la Carac ne me prend aucun frais sur mes versements. 0%. À la Carac, on se bat pour vous. Retrouvez toutes nos conditions générales sur carac.fr. Tout investissement présente un risque en perte de capital. La Carac, mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Bonne pêche ?
Pour Lidl, oui. En ce moment, les deux filets de limande du Nord MSC façon Meunière sont à 2,39€ les 200 grammes au lieu de 3,40€, moins 29%.
2,39€ ?
Et avec l'appli Lidl Plus, il y a moins 33%, soit 2,25€ les deux filets.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 11,95€. 15 le kilo, 11,25€ avec l'application Lidl Plus. Transformée en France. Offre valable jusqu'au dimanche 19 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
RTL Matin.
Marina, décidément, on aura encore un temps très instable ce mercredi.
Les jours se suivent et se ressemblent et ce sera le cas encore les jours prochains. Ce temps instable, en effet, où vous pouvez avoir des moments d'accalmie avec des éclaircies, mais qui ne dureront jamais bien longtemps puisque les averses sont d'actualité. Elles sont assez nombreuses. Là, en ce moment, sur la façade est du pays, en gros du Grand Est, en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec même quelques impacts possibles sur le Sud-Est. Et puis à l'arrière, on a un ciel de traîne bien actif, c'est-à-dire que les averses sont nombreuses sur les régions atlantiques, de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine. Entre les deux, il y a un petit peu de mieux. D'ailleurs, on aura un peu plus d'éclaircies de la Normandie à la région parisienne, du centre, et puis cet après-midi, en allant vers la Bourgogne et les Hauts-de-France, en descendant vers la Loire et le Languedoc, c'est la zone où il y aura un petit peu plus d'éclaircies et un petit peu moins d'averses, sinon partout ailleurs, ce sera perturbé.
Les températures ?
Alors, les températures, on aura à peu près les mêmes qu'hier, sauf dans le nord-est, où hier, on avait du 26-27 à Strasbourg et à Mulhouse. Eh bien là, ça va baisser de 6 à 9 degrés. On va revenir à soit des moyennes de saison, soit légèrement en dessous, avec 14 à Aurillac cet après-midi, 16 à Brest, 17 à Bordeaux et à Besançon, vous aurez 18 à Strasbourg, à Toulouse, au Mans, 19 à Lille, 20 à Lyon, 21 à Paris et à Marseille et 24 à Ajaccio.
Merci beaucoup Marina, vous allez rejoindre Amandine Bégaud et Yves Calvi qu'on accueille maintenant. Bonjour,
bonjour
à tous
Jérôme.
Les deux.
Ça croustille chez vous ce matin ?
Ça croustille, oui.
Voilà, on va saluer Georges Doucet, vainqueur du concours du meilleur croissant du Grand Paris, qui nous accompagnait depuis 5h ce matin et qui nous a porté plein de...
Entre les fetours, on s'est bien compris.
Ah, voilà, écoutez, Georges vraiment... qui est venu avec son fils Mathis, parce qu'on travaille en famille dans cette boulangerie du 12e.
C'est une merveille.
Ils sont magnifiques. On ne les a pas encore goûtés,
non, non, non.
Ils ne pas avoir la bouche pleine.
Voilà.
Mais ils sont sublimes.
Voilà, et ils sont très bons surtout.
Ah, on les a goûtés. Vous les avez goûtés.
Nous, on les a goûtés. Ouais.
Mm-hmm. Bah, faites-nous votre petite analyse quand même, ça m'intéresse.
Eh bah, écoutez, il y a un petit arrière-fond de miel. Voilà. Elle rajoute du miel, donc ouais. Ça fait cette particularité.
Avec du beurre à Poitou-Charentes AOP.
Et voilà.
Ils sont beaux et bons.
Voilà, le meilleur croissant du Grand Paris au beurre Charentes-Poitou AOP. Oui. C'est le titre de ce concours.
Merci à vous deux. À demain matin dès 4h30 avec toute l'équipe de Nos Petits Matins. Bonjour Amandine.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est une évasion spectaculaire, digne d'un film à laquelle nous avons assisté hier, quasiment en direct, au péage d'Incarville sur l'autoroute A13. Toutes les polices de France sont à la recherche de Mohamed Amra et de ses comparses ce matin.
Alors combien étaient-ils ? Qui sont-ils ? Ont-ils d'ailleurs été identifiés ? Ont-ils bénéficié de complicité ? Cette attaque aurait-elle pu être évitée ? Les questions sont encore très nombreuses. Ce matin, nous les poserons à Gérald Darmanin. Après des mois de diète médiatique, le ministre...